Je reviens au sujet. Pour dire déjà cela, je n'ai pas encore parlé de faute. C'est-à-dire, je n'ai pas encore parlé de ce que l'on pourra désigner, déjà dès le commencement du récit biblique dans l'histoire de l'humanité, de la faute de l'homme, de la complication de ce chaos qui vient du comportement de l'homme. Ce que l'on a l'habitude d'appeler dans le vocabulaire de la culture contemporaine le péché originel ou la faute originelle. Mais déjà vous présentez qu'il y a un chaos à restaurer qui est nécessité par l'existence du monde qui n'a rien à voir avec le problème de faute et châtiment. Et c'est ce que, premièrement, le discours kabbaliste nomme le tikkun. Il y a aussi un deuxième niveau lorsque la faute du comportement humain vient compliquer ce chaos, un tikkun de restauration de l'état antérieur du chaos, jusqu'à ce que le tikkun du chaos soit lui-même résorbé. Et c'est pourquoi il y a là une sensibilité de la relation à la faute et à l'expiation de la faute, mot nouveau que j'emploie qui n'est pas le même que tikkun, qui est kapara en hébreu, qui est très différente dans la tradition hébraïque que dans les autres traditions, en général celles que nous connaissons en Occident, et qu'il y a un désordre du monde qui est nécessaire métaphysiquement à l'existence du monde. J'espère l'avoir déjà montré, je m'excuse pour que ceux qui sont arrivés après l'analyse, ça peut paraître un peu abrupt, et duquel l'homme, ontologiquement, n'est pas responsable, dans le sens moral, de coupable, ne doit pas être culpabilisé de cela. Et vous comprenez comment la relation au problème moral est d'une toute autre aisance que l'on pourrait supposer. Il est responsable, dans le sens kabbaliste, j'allais dire, par le fait qu'en tant que créature, il est responsable de lui-même, c'est-à-dire de la restauration de son propre monde. Mais il n'est pas coupable du désordre de ce monde qu'il a à restaurer. Il n'est coupable que de l'aggravement de désordre que son propre comportement y aura ajouté. Et c'est un point extrêmement important qui vous explique la spécificité de la relation au problème de la conscience morale propre à cette tradition hébraïque. Et ce qui explique déjà que cette notion de faute originelle ou péché originel n'a pas du tout le tragique qu'elle peut avoir, comme par exemple dans le vocabulaire de la théologie chrétienne qui l'a, cité de la Bible hébraïque, mais en lui donnant une toute autre signification, et qui provient du désespoir, de la désespérance du paganisme antérieur qu'il voulait renier en s'appuyant sur l'espérance hébraïque, mais qu'il n'a sans doute pas complètement évacué. Et pour revenir donc à ce point, nous aurons à parler de cela. L'état du désordre avant la faute du commencement de l'histoire et l'état du désordre après la faute du commencement, lorsque cette faute est faite. Pour être un peu plus complet sur ce sujet, je voudrais vous citer un grand maître des Chassidim, c'est le Rav Nachman de Bratslav, qui, dans un livre célèbre qui s'appelle « L'Ikuté Amarim », a désigné trois niveaux de l'origine du mal, pour reprendre ce terme que nous avons employé si souvent hier soir. Le halal lui-même. Il y a un mal d'être qui se mélange à l'être par le fait que notre être d'existant procède d'un halal tant qu'il n'est pas comblé. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié le sens de ce vocabulaire, ce vide dans l'absolu qui était nécessaire pour que notre existence y soit logée. Et Rav Nachman de Breslav dit que ce mal d'être qui vient du halal est inexplicable. Seul Dieu le connaît, puisque le halal est censé être en lui. Nous sommes dans le halal. Mais nous pressentons parfois cette tzara, ce mal d'être dont j'ai parlé, sous forme d'angoisse. La deuxième origine du mal, c'est tout simplement ce chaos dont nous avons parlé, et qui, je le répète encore, n'est pas un hasard métaphysique, comme diraient par exemple les anciennes philosophies grecques. Je pense à l'ancienne philosophie d'Épicure qui disait que un atome s'est par hasard dévié de sa route et a carambolé tous les autres, et d'où l'état de chaos. Cet appel au hasard pour expliquer l'origine de l'organisation des mondes. Il est nécessaire absolument à l'existence de notre monde, parce que les valeurs nous sont données nécessairement avant d'être unifiées, c'est à nous de les unifier. Et puis, la troisième origine, c'est ce qui procède de ce que la faute de l'homme ajoute. Mais vous comprenez bien que dans l'univers de la pensée hébraïque, ces trois étages sont absolument distingués et que la culpabilité ne réside que sur le dernier, c'est-à-dire ce niveau où l'homme est responsable dans le sens moral absolument et donc coupable. Je dis cela parce que très souvent, les Juifs, à travers leur exil, leur histoire, surtout d'exil, ont oublié ces distinctions, et parfois, je ne sais pas comment dire cela, c'est une déformation, un raté de la conscience morale assez souvent propre aux Juifs eux-mêmes, se sentent coupables de choses dont ils ne sont pas responsables. Alors que originellement, l'hébreu a pu donner ce message d'espérance que nous lisons chez les prophètes de la Bible, parce qu'il avait un regard lucide sur le désordre du monde, et il savait jusqu'où va la responsabilité du mal de l'homme et où réside la situation du mal nécessaire à l'existence dont nous avons parlé hier soir. Et j'entends bien, certaines questions ont été posées hier soir, qu'au niveau de notre environnement culturel, cette distinction est difficile à faire et qu'on mélange, comme Job l'avait fait, des problèmes différents. Vous vous souvenez du livre de Job. Et lorsque Dieu lui répond, mais tu n'étais pas présent au commencement de l'histoire des mondes. Lorsque Dieu lui décrit le commencement de l'histoire des mondes, c'est le dernier chapitre de Job, Job est rassuré. Non pas parce qu'il a compris, il n'a rien compris, mais parce que nous ne comprenons rien, à moins de nous aider de la tradition à ce discours du récit du commencement à la fin du livre de Job, mais parce qu'il a entendu une réponse et qu'il sait qu'elle existe. Il est donc renvoyé qu'à ses propres fautes. Le livre de Job, c'est un autre problème. Je le signalais simplement en passant. Je voulais donc citer le Rav Nachman de Breslav qui indique, dès que l'on a une vision suffisamment précise d'après le récit biblique des raisons de l'état de chaos, des raisons de son aggravation éventuelle, qu'il y a trois niveaux de l'origine de ce désordre que nous appelons le mal. Encore une fois, celui qui vient du halal, nous n'y pouvons rien, mais la seule consolation qui nous reste, c'est de nous souvenir que c'est la condition nécessaire de notre existence jusqu'à ce que la restauration de nous-mêmes nous mène à ce que je vais lire tout à l'heure, à l'aboutissement de cette restauration. Deuxièmement, le désordre propre au fonctionnement de la nature comme nature, le chaos naturel qui fonctionne dans son organisation minimum que nous appelons le déterminisme. Et puis troisièmement, la faute morale de l'homme qui aggrave cela. Je referme cette parenthèse, je crois que c'est important de la signaler, et j'en arrive à ce texte qui parle de façon encore plus profonde qu'on a pu l'entendre jusqu'à présent, des causes de cette Shvira. Shvira, je vous rappelle, c'est donc cette brisure des véhicules de l'être rendu au monde et à différents niveaux, et dont le résultat est cette retombée des brisures sur Terre, sur notre terre, ce qui explique qu'à l'origine, le texte ait pu dire si simplement, si directement, et la terre était chaos. Entre-temps, le ciel avait éclaté. Peut-être je me permettrai une parenthèse historique avant de l'oublier. Cette restauration va se faire dans l'histoire. Les grands hommes que la tradition hébraïque va citer dans son récit historique sont arrivés à restaurer ce ciel, à restaurer les véhicules de chacune de ces valeurs. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Aujourd'hui, nous vivons, après le temps des pères, des patriarches, nous vivons sur une terre qui a de nouveau un ciel, dans le sens du vocabulaire que j'ai employé. Mais pendant longtemps, jusqu'à Abraham, eh bien, il y avait cette situation décrite par nos deux premiers versets, que Dieu avait créé les cieux et la terre, mais les cieux avaient éclaté, leur valeur était remontée, et que la terre était sans ciel. Si j'ose dire, entendez cela dans le sens moral, bien entendu. C'est pourquoi vous avez cette référence dans le Talmud qui dit 2000 ans de chaos. C'est les 2000 ans avant la naissance d'Abraham. À partir d'Abraham, le ciel redescend sur la terre, si j'ose dire. Voici quel est ce texte. Il s'intitule Hamukbal ve'abiltim gvuli. Le limité, Mukbal, je lis simultanément en hébreu et en français pour les hébraïsants. Amukbal, le limité, le fini, vers Biltigouli et l'infini. De nouveau, expression négative, nous disons que le fini, mais nous faisons allusion à son contraire, l'absolu de l'infini, forme négative. Lama ba Ashvira. Pourquoi est arrivée cette brisure? Les filles, c'est parce que chez Aelakut, notenet hi lefikoha, parce que ce que donne la divinité, elle le donne selon sa force. Vous comprenez tout de suite l'idée. L'impétuosité de l'être qui revient brise les vases de réception. Et celui qui donne, donne tout. Sinon, ce n'est pas un don. Celui qui donne, donne, je ne dis pas se donne, ce serait du problème, mais celui qui donne, donne, et alors les vases de réception, tant qu'ils ne sont pas capables d'être vases de réception de ce qui a voulu être donné, éclatent et se brisent. Vermekabel mukbalo. Or, c'est la suite de l'explication, le recevant à Mekabel, mukbalo, lui est fini. Celui qui donne, donne selon sa force, mais celui qui reçoit est limité. Imken, s'il en est ainsi, tihye hatova mukvelet. Alors le bien serait limité. Alken, c'est pourquoi, notenhu hatova beloshiur. C'est pourquoi celui qui donne, afin que le bien ne soit pas limité, donne sans limite. Lefimidato, selon sa mesure, et il s'agit de celui qui donne, et celui qui donne vraiment, donne tout. Vetihye elokit biltigvulit. Et dans l'intention qu'elle soit divine, c'est-à-dire sans limitation. Si c'est Dieu qui donne, il donne absolument. On comprend déjà pourquoi le monde qui reçoit est toujours en désordre. Tant qu'il n'est pas capable de recevoir ce tout du don qui est donné, il est en shvirataqeli. Ve'afralpi shelo yuchal amekavel hanibra lekavel kihim kesheishaver legamrei. Et voilà le fond de notre problème. Et bien qu'il y ait cette éventualité, que celui qui reçoit ne pourra donc recevoir que s'il est brisé absolument. Cela se réfère en particulier à un verset des psaumes que vous connaissez bien. Je n'ai pas préparé la référence, mais on peut la trouver. C'est que Dieu désire le cœur brisé. Un verset, vous connaissez ce verset, il est assez banal à répéter dans le psautier. Lev nishbar. Que Dieu désire un cœur brisé. Et vous voyez tout de suite le piège d'une piété non avertie. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui désire le cœur brisé? On comprend la spiritualité et pas seulement la poétique qu'il y a dans cette expression. Un cœur brisé est plus apte à la piété, par exemple. Mais le problème philosophique, lui, ne serait pas résolu. Ou métaphysique ne serait pas résolu. Mais on comprend mieux maintenant. C'est-à-dire un cœur préparé à recevoir ce qui le fait vivre ne peut être que brisé tant qu'il n'est pas capable de recevoir tout. C'est ce que nous venons d'entendre. Kim kesheishaver legamre, que s'il est complètement brisé, veibane, et se reconstruit bitshukato lashuv lemkoro abiltigvuli, dans son exigence de revenir à sa source infinie. C'est-à-dire, ce qui permet cette reconstruction, c'est de se souvenir que l'aide d'où nous procédons est infinie et absolue. Et c'est ce qui permet de reconstruire cette brisure. Celui qui se satisfait de la brisure reste dans la limitation, c'est-à-dire la brisure infinie, la brisure permanente. L'itachet be'elakut, de s'unifier en relation à la divinité. Ou basé, yaase hanivra et atzmo. C'est par là que le créé, la créature en tant que créée, se fait elle-même. En retrouvant à travers cette exigence de l'absolu et de l'infini, son propre absolu, son propre infini originel. En l'ayant reçu une fois mérité, et donc cette nécessité de passer par la brisure permanente et perpétuelle jusqu'à ce que l'unité de valeur se fasse, il n'y a plus de brisure. Un des secrets de l'intuition de la prophétie hébraïque, c'est que cette unité s'appelle en hébreu « ahava », c'est-à-dire « amour », comme on traduit en français. Je signale simplement la note de la Kabbalah à ce sujet, que la valeur numérique du mot « 1 », qui est de 13, est la même que celle du mot « ahava », qui signifie « amour ». Je reviendrai, si j'ai encore le temps, sur ce processus immédiatement, et je voudrais terminer ce texte. Et là, c'est important, c'est un texte très hardi. C'est-à-dire la créature ne peut se satisfaire de son exigence d'être que si elle arrive et par elle-même. Je traduis littéralement « bemadrigat » au niveau « ashlemu » de perfection « shelboré » de créateur et plus seulement de créature. « Vit ale mi ma'al ligvul shel nibra » et se surose plus haut que la limitation du créé comme créé. Vous vous souvenez ce que nous avons appris simplement. Tant que le créé est créé et que cela, non seulement il est nécessairement plein de brisures, tout entier brisures, mais il est nécessairement mélangé du néant d'être d'où il vient en tant que créé, puisqu'il n'est pas encore coïncident avec la plénitude d'être qu'il est en tant que recevant l'être qui le fait exister. Ma shelo haya efshar, belo shifat ravtuv, les marlami madrigat efsharut kabalato. Ce qui n'était pas possible sans cette impétuosité du flux, influx, je ne sais pas comment dire, de ce que lui est proposé et donné, bien au-dessus de ses capacités de recevoir en tant que créé. Et encore une fois, à un niveau cette fois superlatif, si j'ose dire, c'est notre nécessité d'existence qui entraîne, beaucoup plus encore qu'elle n'explique, la nécessité de cette brisure perpétuelle. La brisure est le résultat de ce trop plein d'être qui nous est proposé, auquel nous sommes destinés d'être être de réception et que nous ne pouvons pas encore recevoir. Et nous le savons, puisqu'une partie de nous que nous appelons l'âme n'est satisfaite que dans l'exigence de cette totalité, mais notre être, notre personne, n'est pas encore en unification des valeurs pour la recevoir. Encore une phrase, et c'est la fin du paragraphe, « Chez Haya Tamid, Rak Bemadrigat Nibra ». Cette capacité d'être n'était encore jusque-là perpétuellement que dans le niveau d'être du créé, Nivra, créature, l'obéma alat boreklal, et pas encore au niveau du créateur en aucune sorte. Et nous devons tout de suite comprendre, à l'aide des analyses d'hier, créature ça veut dire recevant sans encore l'avoir mérité, créateur c'est-à-dire ayant reçu, l'ayant mérité, capable de le donner à son tour, d'être boré, c'est-à-dire mashpia, être donné. Eh bien, puisque l'heure avance, j'ajouterai simplement une analyse en posant la question « Et comment cela est-il possible ?» Je veux vous ajouter une notion très importante dans le vocabulaire de la Kabbalah qui explique pourquoi le tikkun est possible. C'est que, lorsque la lumière s'était retirée de ce vide, elle s'était retirée totalement, mais cependant pas totalement. Elle avait laissé des traces d'elle-même, une sorte de nostalgie d'elle-même, pas lumière, même pas irradiation, et qu'on appelle Zib shel Zohar shel Or. Zib, c'est l'irradiation du Zohar, qui est l'irradiation de Or, qui est la lumière. L'être étant plus haut que la lumière. La lumière n'étant que l'être pour la créature. Et ça s'appelle, dans le vocabulaire de la Kabbalah, c'est un terme araméen, le Rechimou. Une sorte de trace, Rochem en hébreu. Une sorte de trace que cette lumière, en partant, avait laissée dans ce vide infini du Halal. Ce qui fait que lorsque les sphirotes du créé elles-mêmes, cet être mélangé de néant qui font les véhicules de réception, se sont constituées, elles ont enfermé à chaque niveau d'être ce réchimou, chacune, au niveau d'éloignement de proximité où elles se trouvaient. Il y a le réchimou de profondeur de Keter, celui de Chokhma, celui de Chesed, Gvura, etc. Or, ce réchimou est resté de l'ordre de l'absolu absolu, bien que sous forme de traces. Et il y a une sorte d'exigence absolument impétueuse, je traduis là un mot hébreu qui revient très souvent dans ses discours, tokev, de retrouver son unité avec la lumière absolue d'où il était séparé. La garantie que cette restauration peut se faire, c'est que dans le profond même de l'être de créature, il y a une exigence nostalgique, si j'ose dire, de retrouver l'unité avec l'absolu. Et une sorte de ahava, de désir de réunification, d'unité d'amour avec la lumière originelle, le sens de la lumière étant en présence d'être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce vide qui ne soit aussi plein de ce réchimou, c'est-à-dire de cette trace de l'origine. Peut-être que, au niveau plus que psychologique, c'est cela ce qu'on appelle la mémoire, au niveau profond des choses dont nous parlons, la mémoire de ses origines qui fait reconnaître aux croyants ce en quoi ils croient. Mais chacun a son vocabulaire secret à ce sujet. Chacun, finalement, ne retrouvera que le monde qui est le sien. Il est le seul à savoir en parler. C'est pourquoi ce n'est pas en public qu'on étudie ces choses-là, sinon pour les indiquer par allusion. Voilà donc, si vous voulez, pour récapituler cette analyse. Non seulement le tikkun est nécessaire, nous n'existons que pour cela, mais il est possible, et comme cela se passe à travers un temps infini, un temps limité, que le calendrier hébraïque enferme dans ses propres schémas de durée, il arrive que l'individu soit coupé de cette patience, infiniment impatiente elle-même, de l'œuvre de restauration que l'on appelle le tikkun. Il y a énormément de textes qui nous donnent jusqu'à des dates et des chiffres, mais cela, ça ne fait pas partie de l'étude que nous sommes en train de faire. Simplement, je peux signaler que même au niveau de l'étude talmudique, nous sommes très familiers à ces structures du temps qui nous sont données comme exemple, avec l'exemple central, la première semaine du commencement, 6 jours et le septième, et à travers l'histoire d'Israël, 6000 ans et le septième. Et je terminerai simplement en rappelant la période très importante, très près de nous, en tout cas dans notre mémoire hébraïque, que l'on appelle la période des pères. Je vais vous les énumérer. Ce sont, parallèlement avec la restauration de ces véhicules de valeur qui sont rappelés dans le monde, d'en bas, redescendus des cieux, à travers les cieux qu'ils reconstituent, et donc la terre a de nouveau un ciel, le problème de l'humanité des fils de ses pères étant d'en établir l'unité. Mais les valeurs elles-mêmes sont là, prêtes à être unifiées. Non plus à les réinventer, à les restaurer comme telles, c'est le mérite des pères. Abraham correspond à la vertu de Chesed. Il a restitué le Keli de Chesed. Il s'est fait, comme dit notre vocabulaire, Merkava, la Midata Chesed. Comment traduit-on Merkava? À part véhicule, char, chariot. Chariot, la Merkava, c'est connu. Le chariot de cette vertu de Chesed, elle était remontée très loin. Elle n'avait plus de keli, de véhicule. Abraham était là, elle est redescendue. Et depuis Abraham, tout le monde sait que Chesed, ça existe, et que Chesed, c'est le Chesed d'Abraham. On a beau ruser avec cela, ce sont des évidences historiques incontournables. Ensuite, Isaac a restauré la vertu de Gevura, et la Bible nous raconte leur histoire, celle d'Abraham, celle d'Isaac, de ce point de vue, qui ne devient compréhensible qu'avec ces clés de la Kabbalah, si j'ose dire. Jacob a restauré la vertu de Emet, celle de Tiferet. C'est Moïse qui a restauré la vertu de Netzach, Aaron, celle de Hod, Joseph, celle de Yesod, le roi David, celle de Malchut. Toutes ces valeurs sont là, et la descendance des fils a pour objet dans son histoire de les unifier. Et lorsqu'elles sont unifiées, le monde est restauré. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire à ce sujet. Après la notion de chaos, pour la comprendre, il fallait comprendre celle de Tzimtzum. Et vient la notion de Tikkun, restauration de ce chaos. Le récit du commencement nous montre que le gros œuvre, si j'ose dire, qui mène à l'état de la nature est fait par le Créateur lui-même en tant que restaurateur du monde. Et puis, ce qu'il reste à faire, l'œuvre du septième jour, selon le récit du commencement, c'est l'histoire de l'humanité. Dans cette histoire de l'humanité, une lignée humaine traverse ce propos de la destinée du monde. La Bible la nomme Israël. Il y a le temps des pères, il y a le temps des fils, et nous sommes très probablement très avancés dans cette histoire. Et voilà grosso modo ce que je voulais vous signaler ce soir. Et vous avez la parole. Oui, c'est-à-dire une exception dans l'ordre des traditions extérieures au judaïsme. C'est que l'islam reconnaît l'unité de Dieu comme étant exemple de toute représentation. Et elle n'a pas, l'islam n'a pas la connaissance de qui est ce Dieu, sinon par allusion le Dieu d'Abraham, mais il est évident que l'allusion dans l'islam à l'idée de l'unicité de Dieu, du Dieu unique, est exemple de toute représentation, c'est-à-dire de tout risque d'idolâtrie, l'idolâtrie étant les représentations partielles, éclatées de l'unité une. Et en arabe, le mot qui dit Dieu, c'est le mot de Allah, qui est le mot Eloka en hébreu, et que vous connaissez surtout dans la forme plurielle singulière de Elohim. Mais le nom de Hachem, Shema Vaya, celui qui est Dieu, qui dit celui qui est ce Dieu un, n'existe pas dans la tradition de l'islam. Sinon par cette allusion, Dieu d'Abraham. Vous connaissez la préface du Kuzari de Judas Lévi? Je vais vous la raconter très brièvement, je crois que c'est important aussi par rapport à votre question. Le livre du Kuzari raconte un fait historique dont il se sert pour écrire une apologie du judaïsme qu'il a appelé le livre du Kuzari. C'est que je crois que c'était au 9e siècle, dans une région du sud de la Russie, aux confins des pays tartares. La peuplade dont je vais parler est une peuplade tartare, les Khazars. Eh bien, il y a le roi des Khazars, qui s'appelait Boulan, si je me rappelle bien. C'est bien cela ? Qui a été coincé entre l'Empire chrétien et l'Empire musulman, et qui devait choisir de s'annexer, ou de se laisser annexer, ou à l'Empire chrétien ou à l'Empire musulman, pour des raisons d'abord politiques, historiques, pour des raisons aussi qui assez rapidement deviennent d'ordre religieux. Il décide de convoquer un concile de représentants des différentes religions principales, un parsi, un philosophe, un représentant de l'islam, un représentant de la chrétienté, et de leur poser la question suivante. Il leur dit, je fais un rêve qui revient m'obséder très souvent, où un ange me dit, tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne le sont pas. Et je suis à la recherche de la vraie religion. Je crois très personnellement, mais très profondément, que derrière cet exposé d'apologie théologique, l'événement qui est le prétexte du livre, il y a eu un événement historico-politique très important. Et alors, il interroge un par un les représentants des grandes traditions, et aucun juif n'a été convoqué. Et alors, un après l'autre, il est déçu par les réponses, et en particulier lorsqu'il arrive aux représentants de l'islam et aux représentants de la chrétienté, à la question « Mais d'où tenez-vous cela ?» Alors, tant le représentant de l'islam que le représentant de la chrétienté dit il faut demander aux juifs. Alors, finalement, Boulan, le roi Boulan, on dit en hébreu, convoque un rabbin qui s'appelle le Mechaver, ou le Chaver dans le livre du Kuzari, le compagnon ou l'écrivain, et il commence par lui dire, j'aurais jamais eu l'idée de convoquer un juif pour m'expliquer ses problèmes. Mais puisque l'homme de l'islam et l'homme de la chrétienté disent demander aux juifs, alors je te demande. Et c'est un peu cela. C'est-à-dire que finalement, à travers l'histoire, tout le monde sait que l'adresse, c'est la Bible hébraïque. Et je pense que nous vivons un temps où ça commence à être recompris ou reconnu, disons. C'est pourquoi je vous le signale. Rappelez-moi votre question, d'ailleurs.
C'est au sujet de l'islam, par rapport.
Oui. Et alors, en particulier cela, c'est que l'islam parle du Dieu d'Abraham, mais n'a pas son nom. La révélation du nom s'est faite à Israël. Elle commence à Abraham. Mais en tout cas, le principe de l'unicité divine dans l'islam est intégral. Celui de l'unité divine, qui est un autre problème, n'est pas connu. Oui. Parlez plus fort, je vous en prie. Je n'ai pas dit niveau divin.
Celui-ci.
Ah, si vous voulez, oui. Que Dieu a mal à sa créature, si j'ose dire. Oui. Du mal humain. Oui. Très bien. Alors là, vous abordez déjà un peu le sujet du demain soir. C'est cela, la foi de la Bible. Que Dieu est un, celui qui préside aux destinées du halal, du chaos et de l'histoire humaine est un, et qu'il y a relation. Je pense pouvoir dire, je le dirai un peu plus demain, qu'il semble bien que dans toutes les traditions à leurs racines, cette certitude était connue. Mais que l'éclatement des polythéismes a finalement réussi à faire l'éclatement entre la métaphysique d'un côté et la morale de l'autre. En tout cas, nous sommes dans un tel état de désordre au niveau humain que ça peut nous paraître une utopie. Mais ça a toujours été, pour les Juifs, une utopie. Et cette espérance a traversé toutes les contre-utopies, si j'ose dire. Ceux qui connaissent les textes de la Bible le savent. Je vais vous citer un texte simple. Il arrivera que si vous pratiquez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans vos champs. Quel rapport ? Vous connaissez ce verset ? Quel rapport ? Ça ne peut être compris que dans la mentalité hébraïque elle-même. J'ai signalé à la suite d'une question hier soir cela, en citant notre maître M. Gordet, c'est que la foi hébraïque monothéiste a d'abord ce principe-là, c'est que plus de morale, il y a plus d'ordre dans la nature. Pour l'homme moderne, ça paraît délirant. C'est absolument évident. Mais je dois dire que dans les traditions anciennes, même de la Grèce, je m'en souviens, c'était une donnée que finalement, au fond, seuls les paysans ont gardée. Vous savez qu'étymologiquement, païen, ça signifie paysan. Et je n'ai pas dit que les païens ont gardé, mais au fond, c'est peut-être que ce que j'aurais à dire. C'est que le païen, vous savez, c'est l'autre croyant. Mais en tout cas, le païen a peut-être gardé ce sentiment qu'il y a unité des mondes et qu'entre le monde de la morale et celui de la nature, mystérieusement, il y a une unité. En tout cas, c'est indéniablement le principe absolu du monothéisme hébreu. Celui qui a donné la nature et celui qui a donné la morale est un. Il y a donc relation. Pour nous modernes, c'est évidemment une option de foi, de dire plus de morale, plus d'ordre dans le monde, qui risque de paraître délirante si on n'arrive pas à remonter le temps de la mémoire de l'histoire humaine elle-même. Mais sans aller jusque-là, je crois que déjà l'effort d'unité du monde des valeurs à l'intérieur de chacun, sans aller jusqu'à l'utopie que je désignais, est une œuvre considérable. Et malheureusement, il faut dire qu'elle semble absente de l'humanité contemporaine, sauf quelques isolés, comment dit-on en français, quelques exceptions que les traditions appellent les justes. Mais le récit biblique montre que c'est l'universel qui est donné à être juste ou pas juste. Il y a là un problème important. Si nous avions le temps ce soir, peut-être le reprendrai demain. Le Talmud raconte qu'avant d'oser accepter la révélation de la loi, Moïse avait quelques questions à poser au Créateur. Une d'entre elles était celle-là. Il lui demande, page 7a du traité Brachot, il lui demande « Madoua tzadik vetovlo tzadik verarlo » Rachar Betolo, Rachar Verarlo. Il pose la question suivante, avant de recevoir la Torah. Pourquoi existe-t-il ce fait qu'il y a un juste et il a du mal, un juste et il a du bien? J'ai inversé, un juste et il a du bien, ça semble aller de soi, ça semble, j'ai dit. Et un juste et il a du mal, et pourquoi un méchant et il a du mal, ça semble aller de soi, je dis ça semble, et un juste et un méchant et il a du bien? C'est exactement ce problème. Pourquoi n'y a-t-il pas unité entre le sort dans la nature et le mérite moral, ou la vertu. Si vous voulez, c'est un peu long, nous étudierons cela demain, vous me le rappellerez, les réponses de la Gemara sont très, très importantes. Et elles nous montrent que tant que cette unité des valeurs et de la nature, Tiferet et Malchut finalement, n'est pas réalisée, cela peut paraître une utopie. Mais il est clair que d'après le discours de la Kabbalah, c'est le fondement même de la foi hébraïque. Lorsqu'on y a renoncé, et qu'on fonde des confessions religieuses mondaine et, je ne sais pas comment dire, cérémonielle, on est complètement en dehors du coup, si j'ose dire. Et quand il n'y a que ça, que ce soit église, synagogue, mosquée, tout ce que vous voudrez. Et ça, c'est la lecture simple de la question de Moïse. Mais je voudrais quand même expliquer un peu. En fait, il y a quatre questions et pas seulement deux. On pourrait se dire qu'il y a deux questions. Pourquoi y a-t-il un juste et il souffre, un méchant et il a du bonheur? En fait, il y en a quatre. Et c'est pas simple comme problème. Parce que c'est pas évident que quelqu'un qui est juste doive avoir du bonheur. Apparemment, non seulement il est juste, et il veut encore être heureux, en plus. Et parce que, de la même manière, pour le méchant, c'est pas évident qu'un méchant doit souffrir. Comment? Non seulement il est méchant, le pauvre, et en plus il doit souffrir. En fait, c'est pour indiquer que le problème est très vaste. Et il y a une autre lecture qui est peut-être un commencement de réponse. Ce n'est pas la réponse de la Gemara. La Gemara donne deux réponses qui sont différentes. Tzadik vetovlo, tzadik verarlo, ça peut signifier un juste et ça lui fait du bien d'être juste, ou un juste et il est malheureux d'être juste. De même que rachar vetovlo, c'est-à-dire être rachar vetovlo liot rachar, rachar verarlo liot rachar. Un méchant, et ça lui fait du bien d'être méchant. Un méchant, et ça lui fait du mal d'être méchant. Vous voyez que les choses ne sont pas simples. C'est-à-dire qu'il y a une autre catégorie qui apparaît là. Encore une fois, tant que le tikkun n'est pas achevé, ce désordre est dominant. Bien. Oui. Encore une, et encore une, si vous voulez, parce que et la dernière, oui. Parlez plus fort, oui. Parce que ce que lui est proposé le brise absolument. Mais oui, c'est pourquoi je disais hier soir tellement que cet être de mal est connaturel à notre monde et que l'homme moderne fait semblant d'avoir oublié cette lucidité. Et c'est pourquoi j'ai tenu à vous donner un certain nombre des fondements métaphysiques de cette notion. Et ce dernier des mondes dans lequel nous sommes situés, comme je l'ai dit hier soir, la majorité c'est du mal, il y a un peu de lumière. Il faut faire la remontée. La remontée se fait sur place, à l'intérieur. Mais tant qu'elle n'est pas faite, le monde est ce qu'il est. Je crois qu'il y a eu une espèce d'escroquerie philosophique à travers les siècles qui consistait à enseigner que le monde est bien et qu'on ne sait pas d'où vient le mal. Alors que la Kabbale dévoile une chose simple, c'est que le monde, en tant que monde créé, est mal. Mais ça a un sens moral à tous les niveaux. Il y a des niveaux qui nous échappent, le halal, le chaos, parce que c'est à l'échelle universelle. Il y a des niveaux qui sont à notre portée, la faute de l'homme. Et chaque fois qu'on la commence, elle est originelle. Mais il n'y a pas hérédité de cette faute, c'est constitutif à notre... C'est une manière, je dirais, que notre condition originelle, c'est étant libre d'être peccable, mais ce n'est pas d'être pécheur, c'est d'être peccable. Mais c'est la condition même de notre existence comme créature. Une minute, je voudrais ajouter une phrase. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est ceci. C'est que, en même temps et à côté d'un vertige indéniable, il y a une espérance colossale dans ce discours de la Kabbalah. Une, plus qu'une consolation, un rassérénement. Mais à condition d'une lucidité très aiguë et très fine. Or, elle a été la conscience juive à travers les siècles. Ça, c'est clair, et pour l'histoire, je ne parle pas des historiens, et pour l'histoire, et pour la contemporanéité. Et lorsqu'il y a fléchissement sur ce point, il y a crise de l'identité juive. Tout simplement. Bien, écoutez, je m'excuse pour les autres questions, on les reprendra demain, mais mon état de santé vraiment ne me permet pas d'être si longtemps assis. Je suis désolé. En tout cas, on se revoit demain soir à 8h30. Et pour ceux qui continuent à étudier les textes, je vous indique que nous aurons cours à 11h et pas à 10h comme ce matin. Alors, à demain.